Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité. AAU.
Eh bien, donc, s'il vous plaît, on va reprendre pour cette troisième session de la journée, intitulée Enquêter des lieux par les sensibles, pour laquelle on va voir Lucille Wittersheim et Sébastien Depertin. Donc, Lucille est doctorante au Muséum national d'histoire naturelle, avec une thèse intitulée Les maraîchers et leur sol, savoir sensible et pratique du fer avec dans le maraîchage biologique en Seine-et-Marne. C'est ça, tout ça. Co-dirigé donc par Frédéric Clou du PALOC et Joan Clavel de l'ADIS.
Et donc, on va aller rapide. Sébastien Depertin, ici, donc, qui est, fait un master en géographie, c'est ça, hein, et qui est inscrit en thèse au laboratoire Cresson, qui travaille sur les ambiances de l'Anthropocène et à l'écoute des mutations des milieux de vie. Donc voilà, on vous écoute, on va essayer de tenir le temps parce qu'on a déjà beaucoup de retard, mais quand même, commencez par exposer vos objets de travail dans l'ordre que vous voulez peut-être.
Je me lance alors. Je ne sais pas si ça marche, s'il y a besoin de plus de son. Ok. Je vais essayer de vous présenter un peu mon terrain d'étude. Donc pour celles et ceux qui sont descendus dans les garages, dans les sous-sols à l'instant, c'était un peu un aperçu. Le terrain que j'aborde, c'est un terrain très, c'est d'abord un terrain très géographique, en fait, très situé, parce qu'on est sur une frange sud de la métropole grenobloise. Alors pour celles et ceux qui connaissent, on se situe entre Pont-de-Clé et Jarry. En fait, on suit un axe qui est celui du Drac, donc un cours d'eau majeur ici. Et c'est une zone qui est très marquée par des activités industrielles et par quelque chose qui est de l'ordre de la maîtrise de l'environnement, qui est de l'ordre de la maîtrise du contrôle de l'environnement. Donc en termes industriels, il y a deux énormes plateformes chimiques qui sont à Pont-de-Clé et Jarry, qui sont des plateformes un peu plus que centenaires et qui ont été construites au moment de la Première Guerre mondiale. Pour des usages militaires et qui sont toujours en activité encore aujourd'hui. Et puis on a aussi des séries d'installations hydroélectriques qui rythment les cours d'eau du Drac principalement et un peu de la Romanche. Et en fait, quand on traverse cet espace-là à pied, c'est assez marquant de voir des cohabitations qui sont assez stupéfiantes, assez étonnantes, où la ville en fait se faufile à travers ces énormes plateformes chimiques. On passe d'un registre à l'autre. De centre-ville à activité industrielle, à des milieux naturels qui vont sembler, avec tous les guillemets possibles, sauvages. C'est des milieux très artificialisés en réalité. Mais voilà, on passe sur des berges, des cours d'eau, etc. Ça en résulte en fait un territoire qui est très morcelé, qui est avec plein d'espaces préemptés, des interdits d'accès. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse phrase. À Grenoble, on dit qu'au bout de chaque rue, il y a une montagne. Et moi, je dis que là-bas, au bout de chaque rue, c'est un panneau accès interdit, en fait. Et à chaque fois qu'on marche dans ces endroits, on bute toujours sur un registre du risque, du danger, soit que l'espace est clairement fermé, clôturé, avec présence de barbelés, de toutes ces barrières, de tous ces empêchements, soit c'est simplement un rappel constant du risque qu'on retrouve à peu près partout. Donc, un territoire industrialisé depuis longue date, avec notamment une histoire liée au transport électrique à très haute tension, qui a une des premières expérimentations a lieu ici, en fait, entre Jarry et Grenoble, en fin 19e. Et en fait, aujourd'hui, c'est un lieu de la réaffirmation du caractère industriel de ce territoire, puisque la métropole porte depuis 2019 un projet d'aménagement urbain qui s'appelle Parc Industriel Sud, où en fait il y a du foncier disponible, donc on essaye de réimplanter des entreprises, des industries, et en même temps de négocier avec tous les enjeux environnementaux actuels. Donc un peu pour dresser à grands traits un portrait de ce territoire. Et deuxième chose, c'est que ce terrain, j'essaie de l'aborder par l'écoute, donc de me dire comment est-ce que l'écoute peut permettre une compréhension renouvelée de ce territoire. Et aussi, ce que ce que j'essaie de formuler, c'est de me dire l'écoute est en fait aussi un objet d'étude en tant que tel pour moi. C'est presque, j'ai envie de dire, que l'écoute est un terrain dans le sens où je vais essayer de trouver quelle forme d'écoute, au pluriel, je peux observer et décrire sur ce territoire, à partir de pratiques habitantes, en interrogeant des professionnels, notamment dans les industries. Voilà, comment est-ce qu'en interrogeant les gens qui vivent et pratiquent ce territoire au quotidien, je peux déceler peut-être des formes d'écoute qui témoignent de petites attentions au milieu. Voilà, peut-être, je ne sais pas si je peux être trop long.
Alors moi, je travaille en Seine-et-Marne, donc c'est un département à l'est de l'Île-de-France, à l'est de Paris. Et donc je m'intéresse à des maraîchers bio, et c'est un département qui est très agricole, avec une agriculture très intensive, donc avec beaucoup d'usage d'intrants de synthèse, un labour du sol assez profond. Et donc moi, je vais enquêter auprès d'agriculteurs qui sont plutôt dans des démarches d'écologisation de leurs pratiques, puisqu'ils sont en agriculture biologique, et plus spécifiquement, je suis allée voir des maraîchers qui travaillent le sol, donc c'est-à-dire globalement qui renversent les horizons du sol dans leur travail, et d'autres qui ont choisi de ne pas travailler le sol, donc on appelle des maraîchers qui sont en maraîchage sur sol vivant. Et donc je me pose la question des pratiques de ces maraîchers avec un enjeu pour ceux qui ne travaillent pas le sol. Et ceux qui travaillent le sol, c'est qu'ils travaillent avec donc le sol, qui est une entité qui est globalement inconnue du point de vue des sciences écologiques, et qui est lui-même composé d'une multitude d'entités. C'est une entité complexe, dont la plupart sont invisibles. Et donc, comment ils travaillent avec cette entité inconnue, dont une partie des éléments sont invisibles, et notamment les maraîchers qu'on dit en maraîchage sur sol vivant, donc qui ne travaillent pas le sol, pour atteindre le même état de sol que permet le labour. Donc le labour, en fait, ça défragmente le sol, ça fait une espèce de semoule très fine où il est très agréable de planter. Comment faire quand on n'utilise pas ces outils? Et donc les maraîchers en maraîchage sur sol vivant vont s'appuyer sur l'action des organismes du sol, que ce soit des vers, des bactéries, des champignons. Et donc comment ces maraîchers arrivent à travailler avec l'action de ces entités dans leur sol, avec des caractéristiques de la Seine-et-Marne, notamment qui sont, par exemple, pour les maraîchers qui s'installent sur ces terrains, ils n'ont pas pu choisir leur terre parce qu'il y a une très grande pression foncière en Seine-et-Marne. Donc ils prennent la terre qui est à disposition, qui est une terre sur laquelle ils ne savent pas forcément travailler quand ils s'installent, mais c'est la terre qu'ils vont mobiliser au moment où ils s'installent, et qui vont apprendre à connaître par leur travail. Et donc je m'intéresse aussi à toutes les connaissances qu'ils élaborent au contact de cette terre, qui leur permettent de travailler avec ou sans labour, avec ou sans outils de retournement du sol. Voilà. Aussi pour commencer.
Moi, merci. C'était bien. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu là? Alors, moi, j'ai entendu le terme forme d'écoute. Évidemment, ça m'interroge. Est-ce que tu peux préciser de quoi il s'agit? Et déjà pour montrer un peu comment on peut interroger l'anthropocène à partir de ça. Est-ce que c'est un peu ton... c'est ton sujet, je crois,
dans le jeu. Alors, comment je m'y prends concrètement, c'est que je vais... Bon, il y a plusieurs volets, je pense qu'il y a un peu une volet habitant, des pratiques habitantes. Donc, je vais aller rencontrer notamment des gens qui... Il y a beaucoup de lieux sur le terrain que j'investis qui sont des lieux de promenade. Donc, je vais aussi essayer de rencontrer des gens au fil de l'eau. Et en posant simplement des questions sur leur forme d'attention, notamment, je pose la question de la connaissance du risque pour les gens qui sont au bord du Drac, et comment est-ce qu'ils ont conscience des risques de montée soudaine des eaux. Et en fait, j'apprends que pour se prémunir de ça, ils sont attentifs à des petits signaux sur les bords de l'eau qui leur indiquent que l'eau est en train de monter. Ou, c'est un témoignage que j'ai eu de quelqu'un qui vient là très régulièrement. Elle me dit, mais le son change, en fait, parce que la rivière commence à monter. Ça, c'est quelque chose qu'on a assez régulièrement, je crois, près des rivières, en fait. C'est ce son de l'eau qui se met à se transformer dès lors qu'on sent que ça monte. Donc, j'essaie de repérer, en fait, dans les réponses des enquêtés, qu'est-ce qui peut être interprété, soit indirectement ou directement, en termes d'écoute. Et l'écoute, je l'aborde de façon très large, c'est-à-dire qu'il y a la question du sonore, mais pas que, quoi. C'est-à-dire, j'essaie de l'interpréter comme juste des petites façons d'être attentionné envers son environnement. Enfin, c'est l'être à l'écoute de façon globale. Après, sur les formes d'écoute, C'est que j'avais, sur le démarrage de ma recherche, j'avais imaginé, mais de façon peut-être un peu trop théorique, différentes formes d'écoute qui partent à la fois du sonore, mais aussi qui peuvent convoquer des perceptions voilà, qui ne sont pas de l'ordre auditif, mais qui sont des perceptions sensorielles, peut-être qu'on pourrait décrire de l'ordre du vibratoire. Voilà. Et jusqu'à aller à des formes d'attention qui sont... c'est une expression, en fait, peut-être, une image quoi, de l'écoute qui peut être utilisée dans ces formes-là. Et voilà, mais peut-être, enfin, je sais pas, pour essayer de rebondir sur ce que tu disais, quand tu décris les pratiques des maraîchers sur leur relation à la terre, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'écoute aussi, enfin, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que je l'interpréterais, c'est-à-dire être à l'écoute de sa propre terre, mais qui est pas de l'ordre de l'auditif, quoi, justement.
Oui, c'est ce que je me disais en t'écoutant. Je pense que moi, ça passe plus par le visuel. Les expressions qu'on dit, c'est lire les indices du milieu, par exemple. Mais que ça fonctionnerait aussi d'être à l'écoute. Sauf que là, enfin, dans le cas des maraîchers avec lesquels je suis, c'est leur travail au quotidien qui c'est pas. Enfin après, il y a des enjeux économiques très forts. Enfin, c'est une écoute qui est extrêmement travaillée. Enfin, du coup, moi, je parle plus de perception, mais c'est ils sont en permanence en train de développer des perceptions sur leur milieu pour apprendre à le connaître. Enfin. En apprenant à le connaître, tout en pratiquant, et donc ça pourrait être une forme d'écoute au sens large, même si en fait en ce qui concerne la terre, donc je m'intéresse un petit peu à différentes formes de sensorialité, donc il y a des pour appréhender et percevoir cette terre, il y a des aspects visuels sur peut-être la couleur de la terre ou son aspect. Je me suis demandé s'il y avait des aspects olfactifs, parce qu'il y a des gens qui sentent la terre, les pédologues notamment, mais eux ne sentent pas énormément la terre, sauf pour la présence de champignons, par exemple. Il y a des aspects kinesthésiques, la façon dont ils se déplacent sur le sol, en fait, les informe sur la structure du sol en profondeur. Parce qu'évidemment, ils ont accès à la pellicule extérieure, mais ils travaillent avec un sol qui fait 1 mètre de profondeur, donc comment travailler avec quelque chose qui est aussi peu visible. Donc, ils ont un grand nombre de repères qu'ils développent, mais aucun repère auditif à ma connaissance par ailleurs. En revanche, ils ont les vibrations aussi à travers les outils, la façon dont ça vibre. Pour ceux qui travaillent le sol, ils ont une idée de ce qui se passe à peu près en sous-sol, mais pas d'écoute au sens peut-être restreint dans ce cas-là.
C'est des formes de perception, d'attention, c'est des choses qui sont conscientisées ou qui sont verbalisées directement, non ?
Non, je pense que c'est un peu comme toi, c'est une des spécificités de ce travail sur les perceptions. C'est que c'est des perceptions dont eux-mêmes n'ont pas conscience en fait qu'ils ont toutes ces connaissances incorporées, ils n'ont pas conscience de toutes ces perceptions en permanence qui s'élaborent. Et donc tout l'enjeu de mon travail et du tien, je crois, c'est d'essayer de trouver des méthodologies pour les amener à conscientiser et à verbaliser des choses qui pour eux sont de l'ordre, si je leur demande comment est leur terre, elle est bien. Mais pour essayer de comprendre, ça veut dire quoi être bien, pour essayer de comprendre tout ce qui est derrière, ça demande, comme tout terrain qualitatif, je crois, d'être à l'écoute très fort des enquêtés avec lesquels on est et d'avoir un soin et une attention particulière pour eux. Mais un peu comme toi, je pense que ça demande des dispositifs particuliers pour mettre à jour ces éléments.
Oui, alors, je ne sais pas si on empiéterait déjà sur la question suivante, mais c'est un peu ce qu'on disait une fois, c'est que on n'aborde pas ça de façon frontale non plus, quoi. C'est-à-dire, c'est arriver à poser des questions, les bonnes questions, pour arriver à faire émerger la parole. Enfin, je sais que souvent les enquêtés, si je leur pose la question sur l'écoute, sur leur écoute, je vais obtenir absolument, pas grand-chose. Et puis, il y a même une des difficultés sur ce terrain, c'est que moi, j'ai été frappé par la présence de ces usines. La première fois que j'ai traversé ce terrain, j'étais stupéfait par la place que prenaient toutes ces activités industrielles et puis ces grosses usines chimiques, c'est quand même marquant. Par contre, vous allez demander aux riverains qui habitent à côté, pour eux c'est pas un sujet, quoi. Donc, en tout cas là où j'en suis, peut-être que je prends des pincettes aussi avec ce que je dis, parce que c'est un terrain qui est largement en cours, donc voilà, mais en tout cas des retours qui commencent à être un peu nombreux que j'ai eu, c'est quelque chose qui n'est pas forcément un sujet. Donc il faut arriver à retrouver peut-être des chemins pour poser certaines questions qui font qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, l'enquêté va rebondir sur une question et puis partir dans un truc et puis on se dit, enfin, J'ai plus exactement l'exemple en tête, ça m'est arrivé une fois, mais sur des anciennes perceptions, en tout cas, liées au cours d'eau qui passait à côté, etc. Alors que ça fait un quart d'heure qu'on essaye d'en parler, quoi. Bon, bref.
Oui, et puis je trouvais ça intéressant ce que tu disais au tout début sur les berges, comment ils c'est le bruit de l'eau qui varie, c'est ça, en fonction de ce qu'elle soit haute ou pas. Oui. À ce moment-là, est-ce que tu essayes de leur faire qualifier ce son plus précisément? Comment est-ce que tu te saisis de ces endroits où il y a une indication sensorielle particulière?
Ouais. Alors après, ça c'est il y a des questions de méthodo, je pense, où je vais essayer d'emprunter à plusieurs registres méthodologiques. Et là, je suis encore de l'ordre de l'expérimentation, parce que j'ai l'impression qu'on a plus on va essayer de qualifier et de préciser ses ressentis, plus on va rentrer aussi dans l'intime des perceptions des personnes. Et si je commence à discuter avec quelqu'un que je connais, que je connais pas, voilà, juste au bord d'un canal, ça commence à être un peu compliqué de lui dire décrivez-moi exactement qu'est-ce que vous percevez. Enfin, la personne n'est pas forcément réceptive. Mais en termes de méthodo, là, ce que tu me dis, ça me fait penser à l'entretien d'explicitation qu'on a un petit peu tenté par ailleurs, qui est une forme d'entretien qui amène justement à déplier le plus possible une expérience sensible, mais très fine, très simple, et en essayant de décrire tout le cheminement que la personne a fait. Donc c'est revenir aussi sur des strates un peu peut-être pas forcément toujours conscientes de l'expérience, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et donc la personne doit faire un espèce de travail introspectif pour essayer de se dire là qu'est-ce que j'ai perçu, de repérer les seuils, les variations. Et je le dis peut-être très vite et très mal, mais c'est ce genre d'outil en fait qui me paraît intéressant pour redéplier l'expérience sensible.
Peut-être une question. Alors, j'entends des aspects autour du mouvement, peut-être des mouvements pour activer les sensibles. Alors, je reprends tes mots, Sébastien, autour de transiter à pied les territoires, alors que pour la terre, il faut mettre en mouvement la terre pour qu'on puisse la sentir ou la activer. Donc ça serait peut-être c'est nous qui traversons un territoire qui est statique, enfin statique non parce qu'il est toujours en train de changer, mais peut-être en vitesse des changements plus différentes, alors que l'autre c'est l'objet des recherches en soi, la terre qui va être transformée par l'agriculteur. Bon, c'est une manière de vous poser aussi la question comment vous enquêtez par les sensibles, qu'est-ce que ça serait, ou comment vous le comprenez, tout simplement. Si jamais ça se pose comme objet, ou voilà, comme tu disais, peut-être qu'on l'attaque par la tangente, finalement.
Pour enquêter par le sensible, je pense qu'il y a, pour moi, il y a deux aspects en ce qui concerne un aspect plus épistémologique sur l'anthropologie, qui est que je pense que dès qu'on s'est mis à s'intéresser à des collectifs humains, il y a toujours des dimensions sensibles qui sont présentes, on peut pas faire autrement. C'est juste qu'elles n'étaient pas au cœur des études ethnographiques, elles étaient en marge. Et en ce moment, pour moi, enquêter par le sensible, c'est essayer de mettre cet objet au cœur de ma recherche, de vraiment lui accorder une attention particulière là où c'était pas peut-être moins fait dans d'autres études auparavant. Et de fait, de choisir de le mettre au cœur de sa recherche, ça demande une méthodologie particulière. Et donc, c'est aussi ce choix de méthodologie qui chez moi se traduit dans le fait d'avoir fait une immersion plus, puisque je vais travailler avec les maraîchers un peu comme une salariée agricole au quotidien. Je travaillais avec eux dans les champs pour essayer, en fait, parce que comme on disait, c'est des sensations, enfin c'est des perceptions qui sont incorporées, et je pense que je ne me voyais pas avoir accès à ces perceptions sans moi-même essayer de les ressentir pour comprendre ce qu'ils ressentent en passant par mon propre ressenti. Donc il y a cette dimension d'aller moi-même travailler, et pour comprendre une terre, il faut qu'elle est plus ou moins souple, elle est plus ou moins, il y a plein de caractéristiques de la terre. Et donc en allant travailler avec moi, je comprenais tous les enjeux aussi de pénibilité du travail. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent à travailler la terre? Parce que c'est épuisant de travailler une terre qui n'est pas travaillée. Et pour ça, il fallait que moi aussi, je passe 3 heures les genoux dans la terre à désherber une planche de légumes. Donc il y avait cet aspect méthodologique. Pour moi, enquêter par le sensible, c'est aussi cet élément d'immersion et puis cette espèce d'attention pour essayer, dès qu'ils se mettent à repérer un indice de milieu où j'ai l'impression que leur attention est tout d'un coup est portée sur quelque chose, ils travaillent, ils ont un mouvement routiniers, et puis tout d'un coup, ils s'arrêtent, ils observent quelque chose en particulier, et donc d'essayer de capter ces petits moments d'attention pour dire, ah là, qu'est-ce qui a retenu ton attention, à quoi tu t'intéresses, et puis parfois pousser un petit peu la question, donc de capter ces détails-là sensibles, justement, ce serait par là que je passerais.
Peut-être avant juste que tu réponds, j'ai vraiment distrait vite, et entre les sensibles et les, sensoriels, parce que là, tu nous parlais tout à l'heure d'écouter par les outils, par exemple, de travail de la terre, ou de mettre les mains, ou de servir, donc... est-ce que c'est sensible au sensoriel ou... Enfin, tu saurais...
Je ne fais pas de différence, vu que je travaille plus avec les perceptions, je n'ai pas ce degré de finesse. Après, je considère, et c'est, Ingold en parle, que un peu l'outil, un peu la continuité de la sensorialité de l'agriculteur. Et donc, je ne mets pas une très grande division sensorielle entre avec outil ou sans outil, même si effectivement, ça passera peut-être plus par des vibrations que renvoie le contact, l'outil au contact de la terre ou ce genre de choses.
Le point commun que je trouve là, sur nos approches, c'est la question de l'immersion. Alors, pour le coup, moi, je ne suis pas sur une pratique que je pourrais adopter et à laquelle me former. Mais en fait, pour moi, enquêter par le sensible, ça a été même ma façon de trouver le terrain. J'avais formulé un projet de thèse qui était pas du tout, qui ne formulait pas de terrain, en fait. Voilà, c'était sur l'écoute des milieux de vie, ce qui pouvait être parfois très abstrait, en fait. Et c'était pas du tout évident pour moi de trouver un terrain. Il fallait, ça a été quelque chose, quoi. Et ma façon de faire, en fait, ça a été à un moment de me dire, c'est des choses très bricolées, hein, c'est-à-dire que je voulais travailler à peu près sur la région autour de Grenoble. Et je me disais, OK, peut-être aller en bordure de ville, un peu dans ces marges. Et simplement, je me suis rendu à pied, j'ai commencé à traverser cet espace. Et c'est en faisant ça que j'ai commencé à me rendre compte et à me dire, ah ouais, OK, là, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui m'intéresse de traverser quand je suis arrivé à Pont-de-Clé, que j'ai vu ces usines, que je suis arrivé au bord du canal, j'ai traversé le Drac. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Pour moi, c'était enquêter par le sensible, ça a été d'abord ça, c'est-à-dire d'abord trouver un terrain et trouver un terrain par mon immersion personnelle. Donc ça continue comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que je continue de me rendre le plus possible sur le terrain, de retraverser, puis de me rendre beaucoup de fois aussi sur les mêmes lieux pour observer leurs variations. Il y a des gens peut-être que je vais commencer par retrouver aussi parce qu'ils fréquentent beaucoup ces lieux-là, et d'observer à chaque fois comment des lieux peuvent, si je travaille sur l'écoute, sur le sonore du moins, peuvent sonner différemment en fonction de certains jours, d'une certaine météo, de certaines saisons, de certains événements aussi. En tout cas, c'est le point commun que je trouvais intéressant. Enfin, là c'est cette question de l'immersion, quoi.
Du coup, j'ai une petite question, parce qu'en fait, tu as parcouru différents territoires, et il y en a un où tu t'es dit là, il y a quelque chose qui te happe spécifiquement, où tu t'es dit là, chez les gens qui vivent ici doivent avoir des perceptions particulières. Qu'est-ce qui fait que tu t'es arrêté plutôt sur celui-là?
Initialement, j'avais défini plusieurs terrains, effectivement, qui étaient des marges de Grenoble. Et j'ai commencé par celui sur lequel je travaille encore aujourd'hui. En fait, je me suis arrêter entre guillemets à celui-là parce que c'était déjà énorme, en fait, de pouvoir travailler là-dessus. Il y a une somme d'enjeux, une somme de lieux, de pratiques, qui sont tellement énormes que m'amuser à faire toutes les marges de Grenoble, c'était peut-être pas l'objet. Donc je me suis arrêté au premier espace. J'ai traversé celui-là, et puis après c'est aussi il y a une façon d'être attentif, je trouve, aux coïncidences qui arrive, je sais pas, c'est vraiment une méthode, mais n'empêche qu'une semaine après avoir commencé cette investigation-là, j'apprends que Marc, qui est anthropologue ici aussi, travaille sur ce même terrain. Donc voilà, on s'est quasiment rencontrés avec nos micros sur le terrain. Quelques jours après, il y a des rencontres aussi qui font que ça inscrit aussi le travail là-dedans, et c'est possible, qui font que la recherche elle est possible parce qu'on va rencontrer les bonnes personnes relativement vite, et que ok, c'est parti, ça fonctionne, et on se lance là-dedans, quoi.
Pour continuer un petit peu, et avant de peut-être passer les questions à la salle, justement, je me demandais cette constitution de sensibilité, parce que le choix du terrain lui-même, donc ce que tu viens de dire, est quand même lié à une, je ne sais pas, une certaine empathie ou une certaine, comment dire, attirance. On est déjà dans du sensible, dans ces choix de terrain. Et toi, tu ne l'as pas expliqué. Enfin, j'ai compris, l'immersion, tu l'as fait par l'action, hein, si je comprends bien. Tu fais toi-même le travail de la terre, si j'ai bien compris, pour éprouver directement la chose. Et justement, tu n'as pas parlé. Pourquoi tu as choisi ce terrain en particulier, des maraîchages? Enfin, comment tu t'es dirigé vers ça? Parce que là, Sébastien, ce qu'il vient d'expliquer, je trouve c'est intéressant. C'est un peu l'errance qui fait que, oui, tiens, là, ce serait quelque chose qui parle. On est déjà dans l'approche sensible, hein, enfin, à mon sens. Est-ce que pour toi, c'est aussi quelque chose de ça? Enfin, le choix des terrains sur lesquels je travaille.
Non, je pense que c'est très différent. C'est ça qui est chouette. Comme quoi, il y a de multiples manières d'enquêter sur le sensible. Mais moi, c'était un terrain sur lequel j'avais déjà été il y a quelques années lors d'un stage de master. Et je suis repartie des entretiens que j'avais faits à l'époque auprès d'agriculteurs biologiques. Et j'ai choisi un des éléments qui retenait particulièrement mon attention dans les entretiens. Quelque chose c'est un agriculteur qui dit, il vient de construire une serre. Et il dit, tu vois, à l'époque, du coup, il y a plein d'engins de chantier qui sont passés et qui ont tassé le sol. À l'époque, je serais passée 10 fois avec un outil rotatif pour essayer de décompacter le sol. Maintenant, avec l'expérience, au bout de 10 ans, je sais que je touche à rien, j'attends. Il y a un coup de gel qui arrive, et au moment du dégel, en fait, ça va pulvériser le sol de la même manière que ce qu'aurait fait un engin de chantier, enfin un tracteur, pardon. Et en fait, à ce moment-là, la gentilité du gel m'a surprise en lien avec le sol, et c'est là où j'ai décidé pour ma thèse de repartir plus spécifiquement sur le sol. Et oui, c'est vrai, ce que je n'ai pas précisé, mais que je m'intéresse beaucoup à la gentilité des non-humains, que ce soit des entités donc, vivantes dans le sol, et des non-humains non-vivants. Donc je m'intéresse à la façon dont ils travaillent avec la pluie, avec le vent, avec l'ensoleillement, donc avec tous ces éléments. Et donc non, c'est plutôt repartir d'un terrain qui n'avait pas été spécifiquement choisi pour travailler sur le sol ou ces thématiques, et que j'ai choisi d'approfondir parce que je connaissais certains des agriculteurs. Et en fait, mine de rien, là où il y a des liens de causalité, c'est que pour travailler sur le sensible, il fallait que je puisse être en immersion sur leur ferme. Et en fait, on ne peut pas aller chez n'importe quel agriculteur et lui dire « Est-ce que pendant 2 mois, tu me prends comme stagiaire à tes côtés ?» Et donc, en fait, parce que mine de rien, c'est un peu chiant, un anthropologue sur le terrain aussi, en fait, on pose plein... Non, mais c'est vrai, on pose plein de questions, on les interrompt en plein milieu de leur truc pour dire « Attends, là, s'il te plaît, c'est hyper intéressant pour moi, est-ce qu'on peut en discuter ?» ou je sais pas quoi. Enfin, ils sont super sous pression, ils travaillent comme des fous, donc il faut... on va pas travailler chez n'importe qui, donc je pense qu'il y a aussi une sensibilité de l'agriculteur de recevoir une anthropologue sur son terrain, d'être ouvert à ce type de discussion. Et donc, pour traiter ce genre de sujet, aller chez des agriculteurs que je connaissais déjà pour certains d'entre eux, c'était aussi une ouverture intéressante. Mais il n'y a pas eu ce... Je n'ai pas déambulé dans la Seine-et-Marne à l'écoute de la terre. enfin, avec tout. tout le reste. Oui, bien sûr.
Moi, je posais cette question parce que je trouve que c'est déjà un premier pas vers le sensible que de s'orienter vers tel ou tel aspect ou terrain, quoi. Terrain, sol ou terrain à risque. Et derrière, il y avait la question, peut-être, mais je ne sais pas si c'est dans vos préoccupations, c'est... Bon, il y a peut-être un fondement épistémologique, méthodologique à ces recherches, mais est-ce qu'il y a aussi une articulation avec le devenir de ces terrains? C'est-à-dire, si on parle plus en termes d'aménagement, de réappropriation, de transformation de pratiques, etc., est-ce que ça aussi, c'est dans vos questionnements qui rejoindraient des dimensions de conception, mais pas de conception, peut-être au sens où on l'entend spécifiquement en architecture, mais dans... devenir les mutations, c'est toi qui renvoie le terme de mutation.
oui, bah là, je crois que c'est un peu, en tout cas, au cœur de mon terrain, il me semble, sur voilà, qu'est-ce qu'on fait d'un territoire aussi industrialisé, d'un territoire qui continue d'affirmer ce caractère-là. Et pour moi, il y a un enjeu par le sensible, déjà d'arriver à le décrire autrement. De le raconter autrement, parce que c'est un territoire qui est très structuré par la question de maîtrise, de justement un point de vue très aménagiste, très interventionniste, et comment est-ce qu'on peut apporter d'autres façons de le dire. Pour revenir, donc, ta question c'était sur le devenir, c'est ça, que je ne me perdais pas, sur le devenir des terrains. Oui, justement, il y a beaucoup d'enjeux... en termes de production, que ce soit des productions industrielles, enfin production chimique, de production d'énergie avec les barrages, de production, oui je ne l'ai pas dit aussi, mais 80, presque 90% de l'alimentation en eau potable de la métropole vient de deux captages qui sont là-bas. Et ici on a la chance d'avoir une eau non traitée, ce qui est très rare en fait en France. Et donc c'est des captages qui sont hyper surveillés. On a l'un des deux, c'est un domaine c'est l'un des plus grands domaines européens, enfin en termes de fermeture, quoi. C'est-à-dire personne n'a le droit d'y avoir accès. Même nous, en tant que chercheurs, on a plus le droit en fait de pouvoir entrer parce que c'est en termes de sécurité, c'est voilà. Du coup, il y a énormément d'enjeux de sécurisation, j'ai envie de dire, et qui font que c'est une tendance qui va en s'accentuant. C'est-à-dire que c'est un territoire, il y a déjà beaucoup de choses qui se crispent et qui se referment aussi. C'est-à-dire que on a, j'ai dit tout à l'heure, un territoire morcelé, mais voilà, d'autant plus maintenant avec la question des risques sur le drag. Donc là, il y a tout un plan d'aménagement qui s'appelle porté par le CIMBI, c'est un syndicat des bassins hydrauliques de l'Isère, qui s'occupe du risque d'inondation. Et donc il y a des énormes projets de réaménagement des berges du Drac pour contenir le risque d'inondation en amont par rapport à Grenoble. Voilà, il y a énormément d'enjeux et d'enchevêtrement d'acteurs institutionnels. Et ce qui fait que, je sais pas, par exemple, je parlais avec des pêcheurs sur ce coin-là et qui se retrouvent en fait un peu en bout de course à avoir beaucoup de mal à se faire entendre, alors qu'ils prennent soin d'une certaine façon de petits endroits, de petits étangs artificiels, mais qui malgré tout maintiennent des petits écosystèmes par endroit. Mais en fait, ils sont pris dans des logiques aménagistes, de prévention des risques, etc., qui font que ça, ouais, c'est un territoire qui est hyper contraint. Voilà. Bon, je ne sais pas, je réponds peut-être un peu à côté, mais...
Tu viens de nous dire que un anthropologue sur le terrain, c'est compliqué. C'est dérangeant. Peut-être que tu pourrais nous dire quelques mots de plus, et notamment pour savoir quand tu travailles sur le terrain, comment. Alors, donc les sensibles, les sensoriels ou d'autres choses peuvent t'aider à enquêter. Et alors, peut-être après, il y a un géographe sur le terrain, c'est quoi? Donc tu me diras peut-être après.
Oui, j'ai dit anthropologue, mais je pense que c'est propre à des enquêtes qualitatives sur le sensible, peut-être pas à l'anthropologie. Je pense pas que le sensible m'aide à enquêter. Je pense que, enfin, il y a plusieurs enjeux déjà, que le fait d'être, ça c'est des enjeux de problèmes qui sont propres à moi, de quand on étudier, c'est un truc qu'on partage aussi, le fait de travailler et d'être attentif à ses propres perceptions sur le terrain, ça peut très vite occuper tout l'esprit. Et moi, j'ai toujours la moitié de mon cerveau qui est, mine de rien, en plus en émerveillement et en découverte de choses que je ne connais pas, et qui est en train d'essayer d'analyser ce que je ressens pour essayer de comprendre ce que vivent les agriculteurs, et en même temps la moitié de mon cerveau qui est attentif à l'agriculteur pour essayer de comprendre la moindre des choses qui se passent pour lui. Donc ça, c'est une des difficultés peut-être que j'ai découvertes en étant sur le terrain, de diviser son attention entre soi et les maraîchers, et puis avec toute la fatigue physique de pratiquer, et la fatigue aussi de la réflexion permanente sur ce que font les maraîchers. Donc il y avait ces enjeux-là. Et après, ce qui peut être perturbant, c'est qu'en plus, j'ai l'habitude de... Enfin, je filme pas mal. Au début, j'avais un appareil photo et en fait, c'est hyper compliqué. Du coup, maintenant, ça a été avec mon téléphone portable parce que c'est beaucoup plus simple quand on est en train de travailler. Tout d'un coup, on veut sortir quelque chose. J'ai utilisé aussi un peu une GoPro en leur mettant sur le front pour essayer d'avoir accès à leurs gestes et à ce qu'ils voyaient sans qu'ils soient entravés dans leur travail. Parce que je l'ai utilisé aussi, la GoPro, sur moi pour pouvoir filmer tout en pouvant continuer à travailler. Et ça, je l'utilise assez rarement, parce que même chose, ça demande de leur demander de s'arrêter, de leur mettre la GoPro, ça bip bip, il y a toujours des choses complexes. Et moi, je pense que c'est plutôt le fait de... Enfin, dans les choses qui peuvent être un peu contraignantes, et je ne sais pas si c'est le cas pour toi, qui travaille peut-être avec des gens qui parfois vont faire une balade avec toi dédiée à ça, que j'étudie des gens qui sont en train de travailler, qui ont un travail très demandant, et que je leur demande du temps là-dessus, et je leur demande de s'arrêter à certains moments... Et puis il y a des jours où ils sont énervés, ils n'ont pas envie de répondre à ces questions. Enfin, trouver les bons moments pour leur poser des questions fines, pour qu'ils soient ouverts à parler de ça. Je pense que c'est plutôt, mais c'est tout l'enjeu de nos postures de manière générale, en fait, de trouver la façon de s'insérer dans leur rythme à eux, avec les rythmes de nos méthodologies, et d'arriver à les insérer dans leur rythme de travail et de vie au quotidien. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Oui, c'est vrai que ça m'envoie à deux choses, en fait. Sur le choix du public, c'est vrai que ce n'est pas un public spécifique, comme toi, tu travailles avec les agriculteurs. Et pour le coup, moi, je vais être orienté vers des personnes qui vont accepter, avoir le temps, donc potentiellement des gens qui ne travaillent pas. C'est pas toujours évident, en fait, de demander du temps et d'accepter que les personnes fassent un premier entretien, puis un deuxième, éventuellement un parcours, enfin reviennent. Donc c'est aussi, je pense, des méthodologies qu'on essaie de développer sur un relativement long terme. Enfin, voilà. En tout cas des choses qu'on essaye de réitérer. Donc, et dans mon cas, c'est vrai que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est un point aveugle, en tout cas, je ne me suis pas franchement posé cette question frontalement, mais c'est la question de, du coup, auprès quel public j'enquête, et du coup, les sensibilités de qui, enfin, les sensibilités, elles sont forcément orientées par un milieu social, je pense que cette question, elle se pose. Et deuxième chose, tu disais être attentif à ses propres perceptions. Et c'est vrai que moi, c'est une question que je me suis posée et un problème qui m'a été posé, c'est que j'ai été attentif, comme je disais, ma façon d'être géographe sur le terrain, c'était un peu d'être en errance et d'être du coup très attentif à moi, ma façon dont je percevais. Mais peut-être que en fait, j'étais stupéfait par ce terrain, mais que en fait, c'est peut-être juste un délire personnel et puis que ça n'a pas grand sens. Donc, après, j'essaie de le mettre en dialogue ou d'exposer ce que moi j'ai perçu et d'interroger les personnes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce moment où je me dis, mais est-ce que c'est juste moi qui trouve ça génial, quoi, et puis basta, ou est-ce qu'il y a vraiment un sens. Donc, il faut arriver aussi à peut-être arriver à prendre du recul sur ses propres perceptions et de se dire, quel sens ça fait sur le territoire qu'on étudie, sur les questions qu'on pose, voilà.
On vous propose d'ouvrir la discussion.
Merci, parce que je trouve le croisement de vos deux présentations, en fait, m'entraîne à poser une question ou une réflexion, peut-être, qui s'ouvre à nous tous. Il me semble que votre travail, qui consiste pour partie à enquêter, collecter, documenter, trouve son sens non pas uniquement dans les réflexions que vous allez faire dessus ou avec, mais dans la façon dont vous allez les rendre publics, leur donner une visibilité, les montrer, les etc. Et que cette façon de les rendre publics n'a pas forcément à être complètement contrôlé par le sens de la recherche que vous menez ou par le sens de ce que vous voulez en dire par la suite. C'est comme si à un moment donné, les matériaux de votre recherche peuvent avoir une existence pour partie, pas en autonomie complète, hein, ils ont besoin d'être documentés, expliqués, etc. Mais ont une vraie vie, peuvent avoir une vraie vie en fait. Alors évidemment, une vie au temps présent, mais une vie plus tard. D'où ça rejoint la question des archives de la recherche, etc. Et il me semble que vos deux exemples montrent ça de façon assez évidente. Et on n'a pas forcément l'habitude de mettre dans les méthodologies de recherche cette nouvelle dimension que vous faites, mais qui n'est pas forcément questionnée, explicite, mise en débat, problématisée, c'est-à-dire... comment on rend compte, comment on donne à partager ce sensible que vous observez, quoi. Et du coup, au début, je me suis dit, alors, est-ce qu'on est dans du Georges-Henri Rivière? Est-ce que c'est de l'ethnographie, de l'anthropologie, de la géographie? Mais qu'importe, en fait.
Une réponse, peut-être, c'est... Je dirais que l'expérimentation qu'on a fait tout à l'heure, c'est peut-être un peu dans ce sens-là, je crois, ta question. C'est-à-dire que la prise de son qu'on a fait tous collectivement là, sur 5-6 points d'écoute d'un moment donné du territoire, d'un événement, on a fait ça parce que dès lors qu'on travaille sur l'écoute d'un territoire, on ne pouvait pas louper en fait, un moment comme ça. Et en fait, on est encore en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors ça peut servir comme matériau, comme support à une forme d'écoute réactivée pour interroger les personnes sur la perception. Bon, ok. Mais est-ce que le format qu'on a proposé en bas, voilà, on essaie de voir comment est-ce que ça peut prendre sens de rediffuser, de redonner à écouter ce territoire de façon un peu réduite comme ça. Je sais pas, quand tu disais collecter, documenter, et puis qu'est-ce qu'on en fait ensuite, par la suite. Oui, c'est sûr que les réponses, elles sont encore ouvertes. Et puis on tâtonne un peu, quoi. C'est ce genre de d'expérimentation qu'on a fait tout à l'heure.
Merci. Merci pour vos présentations. Moi, je m'y reconnais beaucoup. Je me reconnais beaucoup aussi. Et je suis également arrivée au moment où je faisais. Je suis encointée. Je m'y reconnais beaucoup dans le sens où j'ai également commencé une thèse que j'ai finie l'an dernier, mais qui se passait au Népal dans des catégories assez loin, mais où l'idée n'était pas du tout le sensible au début, et où c'est devenu une forme de besoin et d'évidence, en me disant effectivement toute cette question du corps que je ne pouvais pas, en plus avec la question potentiellement coloniale et de rétention des savoirs, de qu'est-ce que ça donne d'être une chercheuse occidentale ailleurs, etc. Et besoin beaucoup de passer par le corps. Donc je pense que l'appel du sensible, c'était effectivement quelque chose de du besoin vraiment d'éthique et d'alignement et de recherche méthodologique, au point que finalement je trouve que ce type de travaux, ça invite souvent à faire des thèses entièrement méthodologiques. Et il y a un moment où moi est venue la question en me disant, en fait, je vais passer peut-être 3-4 ans à faire essentiellement de la question méthodologique, parce que la thématique va tellement dépendre de comment je vais enquêter que voilà. Maintenant, je me dis aussi, dans Sensible, on n'a pas évoqué par exemple j'entends bien la dimension. Il y a une dimension esthétique très forte, peut-être fascination. Je trouve que c'est effectivement un fil de rasoir, et ça a été dit de comment on peut du coup se mettre vraiment à disponibilité, à disposition, sans tomber non plus dans une forme d'ego et de retrouver un peu ce côté tour d'ivoire qui nous fascine, alors que des gens sont dans des préoccupations beaucoup plus soit matérielles, soit d'un ordre d'urgence qui nous échappe complètement, et donc de pas ignorer qu'on est en sorte de privilège, en fait. Je pense que je sais pas si on peut appeler ça un capital sensible, mais le fait de pouvoir se mettre à disposition de tout ça, c'est aussi parce qu'on est payé pour le faire, parce que voilà. Et c'est pas le cas de tout le monde avec qui on travaille. Et il y a aussi quelque chose qui me questionne, c'est que je pense que le sensible, ça doit être un moyen d'enquête, mais aussi du coup à quoi il va servir dans nos épistémologies, mais du coup à qui il va servir. J'entends ça aussi dans vos questionnements. Et donc pas de se dire seulement comment ils peuvent répondre à nos questions ou trouver les meilleures manières de répondre à leurs questions, mais quel est le besoin des personnes avec qui on travaille, parce qu'à qui ça sert le sensible. Clairement, je pense que nous, on peut trouver aussi des réponses en tant que chercheuses, enseignantes, etc. Mais auprès du public avec qui on travaille, quelle est leur demande à elles, eux, à qui ça sert. Et puis, dernière chose, c'est aussi comment on en parle pas énormément en France, mais il y a beaucoup des comités d'éthique qui arrivent normalement. Je sais que même dans sur le Modien, un peu comme ça se développe au Canada ou dans plein d'autres pays, quelque part, le fait qu'on n'ait pas de comité d'éthique obligatoire, ça nous permet toute cette sorte d'expérimentation. Et moi, très clairement, j'aurais pas pu travailler avec des comédiennes au Népal, etc., à partir du théâtre de l'opprimé, de tas de choses que j'avais pas imaginé. J'ai pu le faire parce qu'il y avait pas de comité éthique et j'ai pas eu 6 mois de projet. Voilà, ça a été quelque chose de saisi sur place et d'assez convaincant. Ça n'aurait pas pu passer s'il y avait eu un comité d'éthique qui aurait dû évaluer, et si j'avais dû anticiper cette démarche-là. Donc je trouve que quelque part, les démarches sensibles, elles sont subordonnées au fait que des fois, ça... Hop, c'est grounded research, quoi. Ça pop-up comme ça. Et en même temps, peut-être que c'est intéressant de se dire que dans sensible, si on l'utilise, il y a aussi le côté risqué, quoi. C'est-à-dire qu'une donnée sensible ou intime, etc., il faut faire attention à comment elle peut devenir, même inconsciemment, manipulatrice, ou comment on détient de quelque chose, une relation intime avec une personne, et comment ça, est-ce qu'on donne tout à voir dans notre recherche, ou est-ce qu'il y a une partie qu'on ne donne pas à voir. Et donc, dans l'idée de sensible, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup abordé, mais une donnée sensible, normalement, on n'est même pas censé la récolter. Donc, quand je lisais un petit peu au courant de ma thèse, ce que j'avais le droit de demander ou pas, le nom, l'âge, l'orientation sexuelle, etc., ou les préférences, il y a tout un tas de choses qu'on n'est même pas censé devoir récolter. Donc il y a une sorte de flou là, qui est peut-être intéressant, qui peut nous permettre un ensemble de choses, mais dont on a peut-être aussi intérêt, sans aller vers la rigueur des comités d'éthique, de se poser les questions, à qui ça sert, dans quelles conditions, et qu'est-ce que c'est que cette donnée sensible au sens risqué.
Ah, merci. Un autre niveau de question. Moi, je commencerai par souligner deux choses qui m'ont particulièrement intéressée. C'est cette idée que L'écoute, c'est être attentionné à l'égard de son environnement. Et j'ai trouvé que cette formule était, était intéressante. Et en vous écoutant, j'ai essayé de transposer vos attentions sur mes terrains à moi, qui sont beaucoup plus urbains, beaucoup plus domestiques, beaucoup plus policés. Et ça m'a intéressé de faire ce voyage-là. Quand vous vous disiez aussi qu'une des questions de vos travaux, c'était de trouver la manière de faire parler vos enquêtés. Et je me suis dit qu'en effet, quand on enquête sur le sensible comme vous le faites, c'est sans doute une sorte d'idéal type extrême pour trouver une manière de faire parler vos enquêtés sur ce sujet-là. Et donc ça peut devenir un point de repère pour nous autres qui ne travaillons pas tellement sur ces dimensions-là. Et deux questions ensuite. Plutôt peut-être pour Sébastien, dans ta manière de restituer ton travail pour l'instant, qui est très, très, très synthétique, puisque c'est le jeu de ce format-là, mais j'ai l'impression que quelques grands acteurs du côté justement du monde industriel, de tout ce monde de la production, on a l'impression que tu pourrais te tenir à distance de ces grands acteurs-là, alors que potentiellement, ils ont aussi leurs propres attentions à ce territoire. Et puis aussi, derrière ces grands acteurs, il y a autant d'usagers de ces sites aussi. Et donc, voilà, je me demandais si tu allais aussi enquêter auprès de ceux-là. Et puis ensuite, sur la méthode, je me demandais si tu imaginais pouvoir utiliser... la réactivation par l'écoute des enregistrements. C'est-à-dire, est-ce que tes enregistrements sonores peuvent devenir des outils précisément pour faire parler en les faisant écouter à tes enquêtés ?
On a encore une heure, c'est ça ?
Non.
Sur le sensible risqué, et ça revient un peu sur le point qui avait été abordé dans la question précédente. Que moi je me vois pas réutiliser ces vidéos en dehors du cadre. Enfin, de toute façon, c'était la façon dont c'était le contrat passé avec les agriculteurs que j'utilisais ces vidéos que dans le cadre de mon travail. Effectivement, parce que je pense que ce qui est particulier, c'est que quand je vais étudier sensible, c'est de fait par la définition de ce que c'est, que des savoirs qu'ils ont produits eux individuellement sur leur milieu. C'est pas des savoirs qu'on peut retrouver dans des bouquins d'agriculture ou quoi. Et donc il y a l'idée aussi du secret, c'est leur savoir, c'est leur compétence. Ils ont pas envie que ça se retrouve. Certains sont attachés à ce que ça se retrouve pas n'importe où, juste pour des questions de concurrence aussi. Hein. Donc de fait, quand je pense qu'on étudie quand on étudie ces éléments sensibles, c'est forcément personnel et donc ça a une valeur propre pour l'individu. Qui fait qu'on ne pourrait pas trouver ce même savoir autre part. Et à qui il va servir ? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris sur la question, mais en tout cas, moi, l'impression que j'ai, en tout cas, c'est ce à quoi sert mon travail, c'est aussi de pouvoir montrer que les gens, souvent, ont l'impression, face à toutes les injonctions écologiques, on va dire aux agriculteurs, maintenant, vous arrêtez de travailler le sol, parce que c'est bien pour la biodiversité du sol. Et sans être du tout au niveau de chaque individu. Et en fait, s'ils travaillent le sol, c'est pas, ils ne peuvent pas changer de pratique du jour au lendemain. C'est parce qu'ils ont un attachement affectif à ce type de travail. C'est aussi une valorisation de leur travail. Faire un labour bien droit, un sillon de labour, pour eux, c'est comme ça qu'ils se sentent valorisés. C'est comme ça qu'ils ont une reconnaissance dans ce qu'ils font. Cette dimension de la terre qui est presque forme de semoule pour l'avoir pour en avoir fait l'expérience, c'est presque une sensualité charnelle, quoi. Il y a un rythme dans le mouvement. On peut planter indéfiniment comme ça, alors que dans un sol pas travaillé, il y a quelque chose de plus rugueux. Et donc de comprendre tous ces attachements aux pratiques permet aussi de peut-être nuancer les injonctions à changer de pratique d'un système à un autre pour des enjeux écologiques et d'essayer de comprendre qu'il faut aborder différemment les agriculteurs sans prendre parti, moi, dans le sens d'un type de pratique ou un autre, mais qu'en tout cas... toute cette dimension justement sensible en lien avec les pratiques et pas présente dans les injonctions environnementales et ça peut servir à comprendre ça.
Et juste, il me semblait avoir entendu ça tout à l'heure, est-ce que ton travail peut apporter aux agriculteurs des méthodes ou des façons de comprendre peut-être un peu plus finement leurs pratiques, ou est-ce que ça a un intérêt pour eux en termes pratiques ou pas, ou tu le sens pas encore, ou j'ai vraiment cru entendre ça tout à l'heure.
Moi, je ne pense pas, parce que personne, enfin, ils n'ont pas besoin de comprendre, ils n'ont pas besoin d'intellectualiser leur pratique, sauf s'ils voulaient la transmettre, peut-être, de façon différente à d'autres agriculteurs. Ils la connaissent mieux que personne. C'est moi qui essaye de décortiquer avec beaucoup de complexité des... Je ne pense pas que je pourrais les aider à mieux travailler. Je pense que la seule différence, ce serait si eux devaient transmettre leurs pratiques, de les avoir aidés à les conscientiser différemment. Ça peut aider peut-être à une transmission différente, mais je ne pense pas que ça puisse leur servir au quotidien, ou du moins, je n'ai pas eu de retour à ce niveau-là, donc je ne peux pas me prononcer.
Je fais une réponse très, très rapide aux toutes les questions qui ont été posées sur à qui ça va servir. Effectivement, c'est un problème aussi que je me pose parce que je débarque sur ce terrain et comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être une fascination personnelle, mais finalement, personne ne m'a rien demandé et il n'y a pas un besoin qui m'a été... Voilà. En revanche, la question se pose, je pense quand même pour pas mal de gens, de la proximité de ces usines. Et pour moi, il y a un enjeu de dire, est-ce qu'on peut se réapproprier aussi ces endroits? Est-ce qu'on peut se réapproprier une forme de connaissance? Est-ce qu'on peut redonner place à d'autres façons de connaître et de s'approprier ce territoire qui ne soit pas le fait simplement d'activités industrielles, d'une logique aménagiste, etc. Je passe très vite. La question des données sensibles, je suis aussi en plein dedans parce que les captages d'eau potable, parce que toutes ces activités qui sont à haut risque et que oui, il y a la question des données sensibles. Alors, je l'ai pas du tout abordé comme ça, mais c'est vrai que du coup, je trouve ça intéressant d'essayer de l'articuler, de voir qu'est-ce que ça... Voilà. Les acteurs industriels, oui, ça fait partie de mon enquête complètement. Et ça revient aussi à la question des catégories de population dont je parlais tout à l'heure. Et c'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a aussi le milieu ouvrier en fait, de ces usines-là que je n'ai pas encore réussi à intégrer, mais ça va finir par arriver. Et voilà, réactivation par l'écoute, oui, pareil. Pour l'instant, c'est des petites expérimentations que j'ai fait sur quelques entretiens. J'ai pas fait une méthodologie complète d'entretien sur écoute réactivée, mais ça fait partie des choses qui m'intéressent. Après, j'ai l'impression de vraiment bricoler par plein d'emplois méthodologiques aussi, où on reconstruit reconstruit des méthodes comme ça. Alors, je sais pas si c'est très bien, mais je fais vite.
Et à ce sujet, moi, j'aurais bien aimé faire des films réactivés, enfin faire la même chose, mais en regardant des films avec eux, de leur pratique. Mais c'est plutôt par manque de temps à nouveau de les solliciter que je ne l'ai pas fait malheureusement, mais ça aurait été hyper intéressant, ou des photos, enfin il y a plein de...
Dernière question,
Oui, je ne sais plus quoi dire, parce qu'il y a tellement de choses... je trouve magnifique votre dialogue, là, d'abord. La première chose que j'ai notée, c'est l'errance du géographe et la pratique de l'anthropologue. C'est l'idée que l'errance serait au géographe ce que la pratique inclusive est à l'anthropologue. Et alors, ça part d'un titre, comme souvent chez moi, de nommer des choses. Mais après, je me dis, en fait, vous êtes en train de mettre en exergue... l'importance d'inventer des techniques d'immersion, pour prendre un terme un peu commun, des techniques immersives, mais pas simplement pour approcher un terrain comme dans les analyses de sciences sociales classiques, on fait une immersion, puis après on va commencer l'analyse sérieuse, etc. Mais au contraire, comme une modalité de surgissement d'insensible, pas du sens du sens, mais d'un UN sensible, c'est-à-dire de quelque chose qui est de l'ordre de l'événement peut-être, qui est de l'ordre de la surprise, mais qui est partagé par l'enquêteur et l'enquêté, et qui est un moment à ce moment vraiment de rencontre et où il y a une équivalence qui une espèce d'horizon un peu idéal méthodologique entre la parole ou la pratique ou la marche ou un moment de rencontre au sens fort entre les deux. Et ça touche la question du risque dont tu parlais tout à l'heure, la question du secret, du discret, etc. Parce que c'est quelque chose qui est partagé par deux personnes et donc... qui est un moment, ou qui est un constat, ou qui est une surprise, qui est quelque chose qui est de l'ordre du sensible dans tous les sens du terme, quoi. C'est partagé sensoriellement, mais c'est aussi quelque chose qui fait sens au sens sémantique très très fort et qui peut-être peut orienter, troisième sens du mot sens, donner un sens au sens de donner une direction, etc. Alors, je trouve que tu as un excès de modestie quand tu dis non, je ne crois pas que ça ait aucune influence, jamais je me permettrai, etc. Je pense que ça peut tout à fait avoir un intérêt pour celui qui contribue, parce qu'à force d'expliciter, on augmente aussi sa propre sensibilité et qu'il y a une espèce de bouclage aussi entre ce qui est de l'ordre de l'explicitation et ce qui est de l'ordre de l'affinement de la perception qui s'établit à ce moment-là. Ce que je trouve très, très intéressant et que, alors nous, par les écoutes réactivées ou alors ce que tu disais, on appelle ça l'observation récurrente, moi je fais ça, et ben, les gens, après, quand ils ont fait l'exercice, ils nous disent mais t'es un salaud avec ton truc sur les écoutes, je peux plus me promener en ville sans tendre l'oreille. Etc., etc. Et donc, c'est des choses qui nous faisaient très plaisir et qui, je pense, sont vraiment intéressantes. C'est que tout à coup, l'enquêté, ce n'est pas quelqu'un qu'on va exploiter, on va lui tirer des trucs, essayer de le faire parler, mais c'est vraiment à ce moment-là le lieu qui parle, ou le moment qui parle, ou le sol qui parle, quoi, peut-être. Bon, voilà, deux, trois réflexions.
Alors, on peut conclure ? Tu veux dire un mot ?
À part vous remercier pour l'invitation, évidemment, et pour toutes vos questions, merci beaucoup, mais
bah non, merci
aussi. J'ai pas un esprit synthétique comme ça.
Bien,
Et merci à vous pour les questions.
Merci à vous, bravo.